Vous écoutez RTL.
14h04, il est grand temps de retrouver Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Et Vincent Parizeau, salut
et
Vincent.
Ça, Robert, ça marche avec tous, tous les prénoms et les noms, c'est dingue.
Oui, c'est dingue. Et avec l'huile de palme aussi, ça marche. Elle est un peu partout dans notre alimentation. L'ennemi numéro un du moment, est-ce qu'elle mérite cette mauvaise réputation? En tout cas, on veut tout savoir d'elle, depuis quand elle est utilisée dans nos produits du quotidien et quels sont, on va donc répondre à cette question, ces véritables dangers pour notre santé et pour l'environnement.
Et tout de suite, sur RTL, on vous offre un feu d'artifice.
RTL.
Tous les feux d'artifice sont raccordés par des câbles. C'est l'électricité qui mettra le feu à la poudre et déclenchera leur explosion dans le ciel. Le tout est relié à un cerveau électronique d'où l'on peut vérifier tous les branchements.
La curiosité est un vilain défaut.
La belle bleue, c'est beau.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Du jaune, du rouge, du bleu qui explosent en musique, la réussite d'un feu d'artifice est le résultat d'une coordination parfaite.
Curieuse, curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Feu d'artifice au programme. Bienvenue dans notre studio de Curieux sur RTL. Il est ouvert jusqu'à 15h, une heure de découverte. Science, histoire, vie quotidienne, musique, nature, portrait de star, aventure. Arrêtez-moi, tous ces thèmes nous passionnent. Et on y puise des histoires à partager avec vous. J'étais sûr que vous alliez me couper la chic. Ça va, Sylvie?
Ça va très bien, Thomas.
En forme?
Oui, en forme. Salut les curieux et merci surtout de votre fidélité. On est heureux, évidemment, de vous retrouver pour se cultiver dans la bonne humeur. C'est comme ça tous les jours. Et pour commencer, c'est un métier hors norme qu'on va découvrir, qu'on va explorer, celui de maître artificier. C'est chic déjà comme nom.
Bonjour Jean-Éric Hougier.
Bonjour.
Bienvenue. On est très heureux de vous recevoir. Vous êtes l'un des artistes les plus recherchés dans le monde de la pyrotechnie. Bah, déjà, on va faire le bilan. Combien de spectacles à votre actif?
Aucune idée.
Des centaines.
Plusieurs centaines, oui, quand même, heureusement.
Ah, ça se compte en centaines, en milliers peut-être.
Oui,
même.
Et puis en nombre de spectateurs, là, je ne vous dis pas, j'écrase les Rolling Stones, largement.
C'est vrai?
Bah, évidemment.
Et vous êtes aussi riche?
Et non.
C'est con, hein. Faut bien qu'il y ait une petite lacune quelque part. Dans des lieux d'exception, parfois, faites-nous rêver.
Mais oui, absolument. Ça, c'est la chose la plus intéressante de mon métier, c'est que, ben voilà, on travaille dans le château de Versailles, on travaille à Neuschwanstein, on travaille
à la Tour Eiffel,
on va dans des endroits dans le monde absolument extraordinaires et de manière privée. C'est ça qui est formidable.
Aussi, c'est-à-dire chez des personnes privées, ça
oui,
vous arrive.
Et puis quand, par
chez exemple, des stars.
Oui, ça nous est arrivé aussi, mais là, on ne le dit pas. Mais parce que généralement, ils n'aiment pas. Mais on va, par exemple, quand on va à Neuschwanstein, c'est le château de Louis II de Bavière. Vous savez, celui qui ressemble à un château de fées. Ouais. On est tout seul là-dedans. Et puis quand on revient avec ses enfants 3 ans après, en disant, regardez, j'ai travaillé là, il y a une queue de 4 kilomètres avec des touristes. Et on se dit, mince, c'était pas comme ça la dernière fois. Ouais. Voilà. Donc c'est une chance inouïe parce qu'on rencontre à travers ce spectacle des lieux historiques, des histoires, que ce soit des histoires de lieux, des histoires de gens, des histoires aussi de sociétés, parce que je travaille beaucoup pour des sociétés privées et c'est toujours très intéressant de rencontrer une aventure humaine.
L'un des plus grands feux d'artifice d'Europe, il se déroule dans le domaine de Saint-Cloud, donc on est en banlieue parisienne. C'est un show absolument énorme, il est prévu pour le 8 septembre, c'est vous qui l'organisez?
Oui, tout à fait, c'est une idée absolument dingue qui nous est venue, Patrick Joly et moi. Patrick Joly, c'est un grand président d'une société PAP pour la cité et qui est passionné par le spectacle d'une manière générale, la musique entre autres, et qui est venu me voir en me disant, est-ce qu'on pourrait faire le plus grand feu d'artifice d'Europe? Je lui ai dit,
combien de jours d'installation, c'est un grand feu d'artifice?
Alors, c'est 10 jours d'installation, mais c'est surtout un an de travail. Parce que.
On bosse sur quoi pendant un an?
Alors, on bosse sur la scénographie et la chorégraphie. Parce que, avant de parler des fusées, des bombes, des pots à feu, etc., il faut bien estimer que le feu d'artifice peut être considéré comme une vedette à part entière. C'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire comprendre très souvent aux institutionnels, notamment les mairies, etc. C'est un spectacle à part entière. Celui qui avait promu cette forme de spectacle au plus haut niveau, c'est Louis XIV. Il avait compris qu'on pouvait intéresser les gens avec ça, et notamment la cour et le peuple, de façon à les fasciner très facilement et les rassembler autour de lui. Eh bien aujourd'hui, c'est un spectacle à part entière. Pendant 1h30, le Grand Feu de Saint-Cloud propose une véritable chorégraphie. C'est ni plus ni moins un ballet, un opéra, un concert, avec des formes lumineuses qui vont aider les gens à avoir des émotions immédiates. Moi, ce qui m'importe, c'est de faire plaisir aux gens immédiatement.
Et on comprend donc avec l'ampleur de ce spectacle, il y a 120 techniciens, 65 artificiers, combien de fusées ou de bombes, je ne sais plus quel terme.
Je ne me suis jamais amusé à les compter, mais ça n'a aucun intérêt. Ouais. Justement, l'intérêt d'un feu d'artifice, c'est pas la quantité. J'allais dire, c'est la qualité. C'est aussi, il peut y avoir, par exemple, un petit moment où il y a rien dans le ciel, mais où on va hypnotiser les gens pour qu'ils aient les poils au garde-à-vous.
J'adore.
je reprends toujours, je sais que je me répète, mais c'est pas grave, ça fait rire toujours tout le monde. C'est un acte d'amour de faire un feu d'artifice comme n'importe quel spectacle. C'est-à-dire, c'est rentrer en communication avec le public et leur donner du plaisir.
Mais cet acte d'amour, il vient d'où? De quel pays?
Il vient de beaucoup de pays. Il est né en Chine. Alors, je ne sais pas si les Chinois sont doués en acte d'amour, mais en tout cas, ça vient de Chine. Et puis ensuite, les Italiens, puis les Espagnols et les Français se sont intéressés à cet art, l'ont exploité pour des raisons différentes, soit pour les religions, soit pour le pouvoir temporel avec les rois en France. Et Louis XIV est indéniablement celui qui a mis au premier rang, parce que c'est lui qui a créé ce titre de maître artificier, au même titre que maître de danse, maître ouais. Et voilà, c'est lui qui a institutionnalisé cette forme de spectacle, associée aux autres, n'oublions pas Molière, Lully, etc., qui faisait, par exemple, les plaisirs de l'île enchantée à Versailles.
Où et quand fut tiré le premier feu d'artifice, le premier spectacle de feu d'artifice en France? On vous donne la réponse dans un court instant sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On a de la chance dans la curiosité. Notre invité est un maître artificier, un titre délivré par Louis XIV, s'il vous plaît, monsieur. C'est l'un des plus connus et recherchés au monde. Vous êtes un grand artiste, Jean-Éric Augier. On est ravis de vous avoir dans la curiosité. On fait un peu d'histoire avec vous parce que c'est intéressant de savoir d'où vient cette poudre noire que les Chinois ont inventée. On peut dire qu'ils l'ont inventée ou qu'ils l'ont trouvée au 7e siècle?
On n'a aucune trace écrite, parce que malheureusement, bon voilà, c'est compliqué, 7e siècle, 8e siècle, 9e siècle, on n'a pas grand-chose. Mais ce qui est sûr, c'est que Marco Polo revient avec cette fameuse recette secrète de la poudre noire, et c'est ce qui donne à l'Occident cette supériorité, et notamment quand les Espagnols vont aller débarquer aux Amériques, c'est ce qui donne à l'Occident cette supériorité militaire, j'allais dire, puisque la poudre noire permet d'expulser des boulets de canon et d'autres choses vachement sympathiques pour aller tuer l'ennemi. Donc,
c'est d'abord un usage militaire. On le retrouve dans le vocabulaire des feux d'artifice.
Oui, complètement. Alors, quand la poudre arrive, il faut tout inventer, évidemment, ouais. Puisque rien n'existe. On en est encore à l'arbalète et à la flèche. Hein. Donc, d'un seul coup, on trouve... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, la bombarde, les pots à feu... Pots à feu, on peut le comprendre. C'est une sorte de bombarde. Pouf. Mais les feux d'artifice ont gardé ce vocabulaire. Donc, bombe, bombardier, bombarde,
mortier.
Tout cela vient du feu d'artifice et est un vocabulaire qui a été inventé dès le... 16e siècle pour la guerre.
Est-ce qu'on a la trace du tout premier feu d'artifice qui a été lancé, créé en France?
Oui, on en a plusieurs. Alors, il y a différentes options. Le premier feu d'artifice a eu certainement lieu sous Henri IV. C'est Sully, le surintendant du roi, qui l'avait fait tirer. Mais le vrai grand premier feu d'artifice à la française, c'est le mariage de Louis XIII avec la Anne d'Autriche sur la place royale, aujourd'hui place des Vosges, où là, pour la première fois, on raconte une histoire avec le feu d'artifice.
Et ça marchait bien le feu d'artifice à l'époque? C'était déjà au point comme aujourd'hui?
Pas du tout, ça explosait à peu près une fois sur trois, voire une fois sur deux. Alors, ce jour-là, il n'y a pas eu de mort, mais on racontait, il faut voir dans quel contexte tout ça se passait. On était en France déjà féru de culture, et notamment de culture littéraire, et il y avait des romans épiques et dans lesquels il y avait tout ce faste moyenâgeux avec le roman d'amour, l'amour courtois, etc. Et effectivement, c'est ça dont il s'agit quand Louis XIII épouse Anne d'Autriche. Et donc là, le feu d'artifice aide à expliquer cette histoire avec les effets magiques, parce que c'est ça qui est intéressant dans le feu d'artifice, c'est l'effet magique et merveilleux.
Jean-Éric Augier, comment êtes-vous devenu maître artificier? Vous avez appris tout seul?
Oui, j'ai eu cette chance, j'allais dire, parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune, quand j'étais tout petit, les maîtres artificiers de l'époque n'aimaient pas transmettre leur savoir. Ça se transmettait de père en fils dans des familles, comme ça peut être le cas dans le cirque. Mais moi, j'adorais ça. Donc, j'ai eu des parents complètement tarés, dingos.
Vous laissiez jouer avec la poudre, quoi?
Ah, bah, complètement. Papa et ma grande sœur ont été acheter la poudre noire et tous les produits chimiques possibles et imaginables, parce que quand j'étais petit, j'ai vu des feux d'artifice et des fêtes. Le nom de ma société s'appelle Fêtes et Feux, c'est pas pour rien, j'adore la fête. Et il y a un petit complexe Peter Pan qui fait que, pour moi, vivre dans un esprit de fête, c'est très important. Et ils m'ont donné ça et j'ai fait ça de manière empirique. Comme un cuisinier, j'ai mélangé des trucs.
Ça vous a pété au visage de temps en temps?
Oui.
C'est vrai?
Oui, à l'âge de 20 ans. J'ai mis 10 ans avant d'exploser et là, je dis à tous les parents, si à tout hasard vos enfants ont envie de faire la même chose, vous leur dites... Non.
Mais ça veut dire, est-ce qu'il y a des écoles, Jean-Éric Augier, maintenant, pour apprendre votre métier de maître artificier?
Alors, d'abord... Il n'y a plus de titre de maître artificier, ça, c'est là. Mais c'est intéressant, c'est le langage populaire et qui qui perdure, et tant mieux. Sauf au Japon, où ça, le maître artificier existe toujours réellement. Non, la meilleure école, c'est sur le tas. Cependant, il y a un certificat d'État mis en place pour pouvoir être habilité à tirer le feu d'artifice, et qui apprend à, de manière sécuritaire, de manière à apprendre à tirer, mais ça ne donne pas le talent, loin de là.
Et oui, c'est pour ça que j'allais vous demander, j'ai un peu la réponse en vous écoutant depuis quelques minutes, un artificier, c'est un technicien ou un artiste ?
Alors moi, je dis que c'est un artiste. D'abord, moi, je me sens pas artificier. Ça, c'est important de le dire. Oui. J'ai toujours eu la trouille des feux d'artifice. Mais, mais c'est vrai. Oui. C'est pas des blagues. Mais c'est un matériel tellement extraordinaire. Vous vous rendez compte? Avoir quelque chose qui illumine de manière éphémère et qui ravit des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de spectateurs, il n'y a rien au monde qui puisse rivaliser avec cet art. Pas un seul. Même la musique, les grands concerts ne rivalisent pas avec ça.
Jean-Yves Cougier, grâce à vous, on va entrer dans les coulisses de la préparation d'un feu d'artifice. Reste avec nous, les curieux.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde dans RTL Soir.
Vous en avez assez des donneurs de leçons, vous ne supportez plus les polémiques creuses. Mais avez-vous déjà écouté On refait le monde, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre? Sur RTL, des points de vue tranchés et argumentés, des échanges vifs et toujours surprenants, des grandes signatures venues de tous les horizons, mais aussi de la bonne humeur et des surprises. C'est tous les soirs, de 19h à 20h, sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Toujours avec le maître artificier Jean-Éric Cougier, des centaines, des milliers de spectacles à son actif, notamment sur des sites prestigieux comme la Tour Eiffel, le Château de Versailles ou le domaine de Saint-Cloud. Alors ici, on aime aussi poser les questions basiques. Jean-Éric Cougier, comment ça marche une fusée, le feu d'artifice?
Attention, il y a deux termes, il y a les fusées et les mortiers. Aujourd'hui, on n'utilise plus beaucoup la fusée parce que ça a une direction erratique, comme on dit. C'est-à-dire que la fusée, c'est ni plus ni moins Ariane. C'est-à-dire que vous avez un contenant à l'intérieur duquel il y a de la poudre, et il y a un petit trou en bas du contenant, et les gaz de propulsion, une fois qu'il y a le feu à la poudre, sortent par ce petit trou et éjectent donc des gaz et propulsent la fusée vers le haut. Le problème, c'est que contrairement à Ariane, ça ne monte pas forcément bien droit, ça peut aller à droite, à gauche en fonction du vent.
Alors que le mortier, oui, mais c'est une arme de guerre, le mortier aussi.
Mais oui, mais absolument, vous avez tout dit, sauf que nous, les artificiers, cher Sidonie, nous avons réussi à transformer une arme de guerre en arme de plaisir. C'est pas mal quand
Comment
même.
Ça ressemble à quoi alors?
Ça ressemble exactement à un obus, c'est la même chose. J'ai un canon, un gros tube, ou un petit tube, enfin ça peut aller du tout petit au gros, dans lequel il y a un obus, mais dans l'obus, au lieu d'avoir de la poudre qui tue, il y a de la poudre qui fait de la couleur, qui scintille, qui fait de bruit, des formes, qui va dans tous les sens et qui émerveille petits et grands.
Puisqu'on est dans le langage militaire, c'est quoi votre principal ennemi? La météo,
malheureusement, c'est le vent.
Ouais, le vent.
Voilà, c'est le vent. Après, il y a l'humidité, parce que qui dit humidité provoque une réaction chimique où il se trouve que la fumée adore les particules d'eau qui sont dans l'espace et vient s'incruster dedans en multipliant par 3, par 4, par 5 l'impression de brouillard. Donc on peut avoir parfois un brouillard total, genre le fog de Londres dans les années 1900.
Jean-Éric Cougier, on pose les questions un peu dans tous les sens, mais c'est un peu comme un feu d'artifice, voilà, faut pas se priver. Les couleurs, elles viennent d'où en fait? C'est des pigments que vous mettez dans le mortier?
Ah non, là on n'est plus tout à fait dans le même domaine, non, ce sont des beaux produits chimiques. On est plus proche de l'alchimie, et effectivement, ce sont des sels d'éléments naturels de la fameuse table de Mendeleïev. Donc par exemple, le nitrate de barium va donner du vert, le nitrate de strontium va donner du rouge, les sels de cuivre vont donner du bleu.
En fait, vous êtes un bon chimiste quand on est artificier.
Alors, aussi. Moi, je ne suis pas chimiste. Aussi. Il y a deux métiers dans l'artificier. C'est un peu comme dans les fleurs. Vous avez celui qui conçoit la fleur et la rose, comme Delbar, Truffaut, etc. Puis après, il y a le décorateur floral qui va faire les bouquets. Vous pouvez être un bon décorateur floral en faisant des très beaux bouquets avec des moches fleurs. Et puis vous pouvez être aussi un très mauvais artificier en faisant des mauvais bouquets avec des bombes qui coûtent très cher. Là, c'est une histoire de talent et il ne m'appartient pas de savoir si j'en suis un bon ou un mauvais. Je suis faux cul.
Vous savez très bien que vous êtes le meilleur.
Comment on crée une forme géométrique? Moi, c'est toujours fascinant. Un cœur, comment vous faites un cœur en plein ciel, quoi?
Alors, à la radio, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais disons que, grosso modo, on dessine le cœur dans la bombe. Oui. Avec des petites boules qu'on appelle les étoiles. Et autour de ce cœur qui est en deux dimensions, donc sur un espace plat, on remplit tout le reste de la bombe avec des leurres qui sont des petites étoiles mais qui ne brûlent pas. Ce qui fait que la charge explosive qui est au centre de la bombe expulse toutes les boules qui ne brûlent pas, mais aussi celles qui brûlent en forme de cœur. Et comme c'est une poussée uniforme dans tous les sens du terme à la sortie de la bombe, ça dessine le cœur.
Ça garde
cette
forme.
C'est comme le cœur est en deux dimensions, si vous êtes en face et qu'elle n'explose pas dans le bon sens, au lieu de voir un cœur, vous allez voir un i.
Mais quand est-ce que vous allez inventer la troisième dimension?
Alors écoutez, c'est prévu, mais pour l'année prochaine.
Merci.
On parlait de couleurs, est-ce qu'il y a des couleurs plus difficiles à obtenir que d'autres?
Oui, il y en a en tout cas des plus dangereuses. Tout ce qui est à base de bleu est assez dangereux, parce que ce sont des produits plus instables, mais sinon on arrive à peu près à tout mélanger maintenant. Et alors, c'est assez rigolo, le spectre des lumières, c'est comme quand on dessine, hein, le jaune plus le bleu, ça fait du vert. Donc on arrive à faire
des combinaisons
à l'infini. On a un Pantone maintenant de couleurs absolument extraordinaire, ce qui n'existait pas avant. Louis XIV n'avait que deux ou trois couleurs.
Ah seulement.
Mais il avait l'or et l'argent, c'est ce qui l'intéressait le plus.
Évidemment, le roi soleil. La curiosité continue sur RTL. Dans un instant, on vous donne des conseils pour faire un feu d'artifice en toute sécurité dans votre jardin. Et puis juste après, si vous voulez, on vous dit tout sur l'huile de palme.
Label bleu ou label rouge? Qu'est-ce qui fait la couleur?
Pour faire cette couleur bleue, on a intégré un sel de cuivre. Pour le rouge, on va utiliser du strontium.
La curiosité est un vilain défaut.
Pour le vert, on va utiliser des sels de barium. Pour le orange, du sodium.
Thomas Huguet, c'est Denis Bonnec.
Le sel, il bouge. Il pleut des paillettes.
Oui, très très beau.
Un peu peur parce que c'était proche quand même un peu, mais d'un côté, c'était beau à voir.
On est bien entre curieux sur RTL.
Les feux d'artifice, c'est la saison qui démarre et c'est au menu de la curiosité sur RTL avec toujours notre invité Jean-Éric Hougier. Vous êtes certainement l'un des mieux placés pour donner quelques conseils à nos auditeurs qui voudraient éventuellement faire un feu d'artifice depuis leur jardin. Qu'est-ce qu'il faut commencer par faire? Aller vérifier les autorisations en mairie peut-être?
Absolument, en mairie, en préfecture, parce qu'il y a des régions effectivement où la sécheresse est tellement présente qu'il n'est pas question de jouer à l'idiot. Mmh. Et je suis poli. Donc ça c'est la première chose. Et puis ensuite d'aller voir un spécialiste. Ne pas être tenté d'acheter trop ces feux d'artifice en grande surface, parce que souvent on a un peu tendance quand on fait la fête à ne pas regarder les notices d'emploi, à boire un petit coup de rosé, et puis au moment venu on fait n'importe quoi et ça peut partir dans tous les sens et devenir blessant. Non, là il y a des magasins, je dis pas ça parce que j'en ai un, mais c'est important de prendre le temps de savoir pourquoi on fait le feu d'artifice, où on le fait, à quelle occasion, pour quel nombre de spectateurs et pour quel budget.
Vous avez demandé par exemple avant de vendre, d'écrire un peu les lieux
à tout le temps.
Voilà,
c'est indispensable.
Telle fusée ou telle bombe.
Il existe même maintenant, alors des choses qui sont faites depuis une dizaine d'années, même surtout depuis 5 ans, des boîtes qu'on appelle compactes automatiques toutes faites, qui permettent d'avoir une seule mèche. D'abord, on les pose, c'est extrêmement stable, il n'y a plus besoin de fixer, etc. Et qui se déroulent pendant 1 minute 30, 2 minutes, jusqu'à 7 minutes.
Et ça coûte combien tout ça?
Ça va de 150 à 700 euros à peu
près. C'est un bon budget quand même, ça pour un événement.
Quand on se marie, vu la mise en scène, que font les mariés maintenant, c'est largement possible. Hein, par rapport à la robe, bon voilà.
Hein. Dites donc, les costumes aussi, ça coûte cher pour les hommes, il n'y a pas que la robe.
Oui, mais nous, on peut la remettre. On peut les remettre, pardon.
Intéressant. Alors ça, c'est un autre débat qu'on ne va pas lancer tout de suite dans la curiosité. Merci beaucoup, Jean-Éric Hougier. Vos prochains spectacles, il y en a plein. Je crois que le prochain est à Massy le 23 juin.
Et une petite mention pour Taloir, si vous pouvez le dire, au bord du lac d'Annecy. C'est là où j'habite, c'est ma passion, c'est ma danseuse. Bon. Les pyro-concerts de Taloir, avec de la musique en live. Des projections, des trucs qui volent, qui sont lumineux. 8 août, 16 août, 23 août, lac d'Annecy.
C'est
une destination hors du commun.
Voilà, merci beaucoup. Merci.
Vous écoutez RTL.